Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jocelyne Moussa Okonde.
Briefing trimestriel du Conseil de sécurité de l'ONU, Madame Bintou Keïta a lancé un cri d'alarme face à la catastrophe humanitaire en raison de l'escalade de la crise dans l'est de la RDC. De son côté, le représentant permanent de la RDC à l'ONU a lui appelé le Conseil de sécurité à appliquer des sanctions contre le Rwanda. Fin de la mission d'information confiée au député national Augustin Kabuya pour la formation du gouvernement. Son rapport de mission d'information est en cours de toilettage. Bonjour à tous. Plus de 7,1 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination OCHA. En rapport avec cette situation, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC lance un cri d'alarme face à la catastrophe humanitaire en raison de l'escalade de la crise du M23 au Nord Kivu, mais aussi des violences armées prolongées en Ituri et au Sud Kivu. Bintou Keïta l'a dit hier mercredi au cours du briefing trimestriel du Conseil de sécurité où elle a présenté la situation de la RDC. Elle réitère son appel pressant à l'endroit des donateurs et à la communauté internationale pour venir en aide à ces populations en détresse. On écoute Bintou Keïta.
23,4 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'un Congolais sur quatre est confronté à la faim et à la malnutrition, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire. La ville et la périphérie de Goma font face à des vagues massives de déplacés internes. À la fin du mois dernier, au moins 104 sites de déplacement ont été enregistrés autour de Goma seulement, accueillant plus de 630 000 personnes. Les cas de violence basés sur le genre et d'exploitation sexuelle ont également atteint de nouveaux records. Pour le seul mois de janvier 2024, 10 400 cas de violence basée sur le genre ont été signalés à travers tout le pays, une augmentation beaucoup plus élevée que pendant les années précédentes. Cette catastrophe humanitaire exige de la communauté internationale des réponses adéquates. Pourtant, en février, le plan de réponse humanitaire du pays pour 2023 restait considérablement sous-financé, avec seulement 40% des 2,25 milliards de dollars requis jusqu'à présent.
Pour sa part, le représentant permanent de la RDC à l'ONU appelle le Conseil de sécurité à franchir les rubicons de l'impunité pour appliquer au Rwanda des sanctions à la hauteur de son récidivisme criminel, dit-il. L'ambassadeur Zeno Mukungu a affirmé concernant la tripartite RDC-Angola-Rwanda que la RDC n'acceptera pas des arrangements de façade destinés à perpétuer l'insécurité et la confusion qui encouragent la coalition RDC M23 à poursuivre l'exploitation éhontée de ses minerais stratégiques. Il a ajouté que le retour des populations déplacées reste la priorité pour le gouvernement congolais. On l'écoute.
À court terme, la réaffirmation des processus de Luanda et Nairobi reste la seule voie de sortie et cela implique la cessation des hostilités, le retrait sans condition des troupes rwandaises du territoire de la RDC, le retrait du M23 des positions occupées, le pré-cantonnement suivi du cantonnement dans le Maniema, le suivi du processus PDDRCS. Au-delà des négociations en cours, ma délégation souhaite que le Conseil puisse exiger du M23 de déposer les armes pour rejoindre le programme PDDRCS. Le retour des populations déplacées reste une priorité compte tenu de la détérioration de la situation humanitaire sur terrain. Au vu de la versatilité observée dans les multiples négociations antérieures, ma délégation souhaite que le Conseil de sécurité puisse, tout au long du processus de discussion en cours, garder une posture de vigilance et maintenir des pressions multiformes bilatérales et multilatérales sur le Rwanda jusqu'à ce que le M23 se retire et jusqu'à ce que les troupes rwandaises quittent le sol congolais.
Ce dossier est signé Alain Irung. Pendant ce temps, sur terrain, au Nord Kivu, la situation est restée tendue mercredi après-midi dans la région de Sake, après des violents combats qui ont opposé toute la matinée l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Selon plusieurs sources locales, depuis la mi-journée d'hier, l'intensité des affrontements baisse progressivement, alors que certaines sources affirment qu'il est encore tôt pour parler de bilan. D'autres estiment que les lignes n'auraient pas bougé par rapport aux positions initiales des belligérants. Bernard Danyangi.
Des tirs d'armes lourdes ont été entendus entre 4h du matin jusqu'au tour de midi ce mercredi sur au moins 3 axes autour de la cité de Sake, affirment plusieurs témoins joints sur place. Ils parlent notamment des axes Marangara, Vunano, Kanvé en direction de Kiro Chibinjova vers le sud-ouest de Sake, la partie de Rotobogo en direction Sake Mushaki, ainsi que sur l'axe Kimoka Kiuli en direction de Kichanga au nord de Sake. Nos sources indiquent que les groupes armés locaux qui auraient lancé cette attaque tentaient de déloger les rebelles du 1-23 des collines surplombant Sake que ces derniers occupaient depuis plusieurs semaines. Des positions qui, ajoutent des sources concordantes, seraient déjà renforcées par les rebelles du 1-23 et leurs alliés. Au moins 4 bombes de mortier sont tombées dans la matinée sur la cité de Sake, ajoutent nos sources qui affirment n'avoir pas de détails sur le bilan de ces combats. Rappelons que depuis le 7 février dernier, les rebelles du 1-23 accroissent leurs menaces sur la cité de Sake, dont la grande partie reste contrôlée par l'armée congolaise et ses alliés locaux et internationaux. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
En bref, dans le territoire de Lubero, 2 nouveaux décès sont enregistrés parmi les déplacés de guerre dans les sites de Kanyabayonga. Selon le président de la société civile locale, cela porte à 12 le nombre total de décès enregistrés parmi les déplacés de ce site. Le manque de nourriture, d'eau potable et des médicaments est à l'origine de ces décès, explique le président de cette structure citoyenne qui plaide pour l'implication du gouvernement et des humanitaires pour une assistance à ces personnes qui manque de tout. Fin de la mission d'information confiée par le président de la République au député national Augustin Kabuya. Le secrétaire général de l'UDPS, qui a rencontré hier mercredi le chef de l'État, affirme n'avoir pas déposé son rapport et que sa rencontre avec le président Félix-Antoine Tshisekedi a porté sur les questions liées à son parti politique. Pendant ce temps, son rapport de mission d'information est encore en cours de toilettage. Il revient sur toutes les discussions avec les différentes forces politiques parlementaire et détermine la majorité parlementaire, la taille du prochain gouvernement ainsi que le principe de partage des ministères. Michel Kifindangoy.
Avec la clôture de la mission d'information, plus rien ne bloque la nomination du Premier ministre, à part la remise du rapport de cette mission au chef de l'État. Durant plus d'un mois de service, l'informateur a consulté les différents responsables des forces politiques ayant au moins un siège à l'Assemblée nationale. Ces différentes consultations des leaders de l'Union sacrée et ceux de l'opposition ont permis à Augustin Kabuya de dégager une majorité parlementaire acquise au chef de l'État. Reconduit à sa mission, l'informateur a de nouveau échangé avec les leaders des regroupements qui s'étaient signalés membres de la majorité lors des premières consultations. Ces derniers se sont mis d'accord sur le format du prochain gouvernement, le parti au sein duquel le président désignera le premier ministre et les principes d'attribution des ministères. Avec ce consensus trouvé et contenu dans le rapport, Félix-Antoine Tshisekedi dispose donc d'une coalition majoritaire au sein de laquelle sera formé le futur gouvernement.
Élection hier mercredi du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Les membres du bureau sont désormais connus, excepté le président. Un deuxième tour sera organisé pour départager les 2 candidats au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Aucun des candidats à ce poste n'a obtenu la majorité absolue. Explication avec Paul Amonanga.
Les 2 candidats présidents du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Simplice Mateka et Cyril Kimpu, ont obtenu respectivement 12 et 11 voix sur 24 votants. Et donc, aucun des 2 n'a obtenu la majorité absolue, qui est d'au moins 13 voix. Selon les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, à défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour. Explication avec Alvar Loubouli, vice-président de l'Assemblée provinciale. Il a été réélu à ses postes.
L'article 26 de notre règlement dit ceci. Au cas où vous ne trouvez pas la majorité absolue, vous pouvez revenir dans 24 heures pour passer aux élections. Mais l'État, là, est imparti. On peut aller à 24 ou 48 heures, mais on peut revenir pour organiser les élections. À ce moment-là, c'est lui qui peut passer. C'est lui-là qui aura une majorité relative. Ce n'est plus question de majorité absolue ou quoi. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 10 et l'autre 11, il passe. Le lendemain, quand vous revenez, c'est maintenant la majorité relative. Là, on ne compte plus question de majorité absolue ou ceci, non.
Signalons que Limba Zingoi est élu au poste de rapporteur. Il était l'unique candidat. Même situation pour Frédéric Kafou comme rapporteur adjoint. Quant à Fidel Sakala, il a battu Irène Banzé, l'unique femme candidate au poste de questeur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
En justice, la Cour militaire a accordé hier mercredi la liberté provisoire à Salomon Kalonda, conseiller spécial de l'opposant politique Moïse Katumbi, lors de son audience à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Cette liberté est accordée pour des raisons humanitaires afin de permettre au député provincial élu du Maniema de se faire soigner. C'est après plusieurs demandes des mises en liberté provisoire que la Cour accède aujourd'hui au plaidoyer des avocats, des défenseurs de droits de l'homme et du parti de Salomon, Ensemble pour la République. Détenu depuis juillet 2023 à Ndolo, c'est le 17 août que le procès de cet opposant s'est ouvert. Il est poursuivi pour notamment l'intelligence présumée avec la rébellion du M23 contre l'État. Selon sa défense, des négociations sont en cours pour obtenir son évacuation en vue des soins appropriés. Et puis, la Cour de cassation suspend de statuer sur la cause du ministre honoraire du tourisme Moderone Simba en attendant le prononcé de la Cour constitutionnelle sur les exceptions d'inconstitutionnalité dont elle a été saisie par la défense du prévenu à son audience publique d'hier mercredi où la défense et le ministère public étaient attendus respectivement pour les plaidoiries et le réquisitoire. Modero a récusé pour la seconde fois trois juges de la composition pour partialité. Ses avocats leur ont demandé de se déporter. Le récit de Jeff Ngoy.
L'inconstitutionnalité dont est saisie la Cour constitutionnelle repose d'abord sur la compétence ou non de la Cour de cassation de juger Moderone Simba. Selon sa défense, celui-ci a été soustrait de son juge naturel qui est le tribunal de paix, car il a été simplement proclamé député national, mais dont le mandat n'est pas encore validé à l'Assemblée nationale où quelqu'un d'autre siège à sa place. Pourquoi le ministère public l'a amené devant les juges de cassation? Pour le parquet général, l'arrêt proclamant le prévenu comme étant député est opposable à tous et exécutoire. C'est à ce titre qu'il a déféré à la cassation. Puis la défense qui réfute l'audio reproche au ministère public l'office de procédure, le fait de n'avoir pas mené une quelconque investigation sur les infractions d'imputation dommageable et de propagation de faux bruits. Le parquet s'est seulement contenté de la carte USB sous pli fermé qui lui a été transmise par l'OPJ des services de renseignement militaire sans prendre aucune précaution de l'écouter. Et devant la cour, Modero déclare que l'audio qu'on lui a fait écouter à la demi-appel n'est pas celui présenté à l'audience publique. Où est l'original? Interroge la défense sans réponse.
Autre nouvelle, au Kasaï oriental, célébration hier mercredi à Mbujimayi de la journée internationale de l'eau au club de la minière de Bakwanga Miba avec l'appui financier de la coopération allemande pour le développement GIZ. Le thème choisi pour cette journée est l'eau pour la prospérité et pour la paix. Initialement prévue le 22 mars, cette célébration a été repoussée par le cadre de concertation du secteur de l'eau. Cependant, à Mbujimayi, plusieurs ménages accèdent difficilement à l'eau potable suite aux difficultés liées à la fourniture d'eau potable par la régie des eaux. Esther Dalafina pour le reportage.
Nous sommes au quartier Masanka dans la commune de Djoulou. Marie Mouswamba, ménagère, revient chez elle après 3 heures passées en dehors de sa maison à la recherche de l'eau potable. Elle parle de son calvaire.
On se réveille à 5 heures pour aller chercher l'eau, pour nettoyer même les couches, les habits des enfants, pour même manger. On n'a pas l'eau.
Au point d'approvisionnement en eau, le spectacle est désolant. L'eau est devenue une source de conflit dans les chefs des femmes ménagères. Au cours de la célébration de la Journée internationale de l'eau, Gertrude Ndaya, membre du cadre de concertation du secteur de l'eau, a énuméré quelques conséquences que subissent les femmes qui sont à la recherche de l'eau potable.
Il y a les cas de viol, les noyades des enfants, des accidents, des maladies d'origine hydrique.
Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, un minimum vital de 20 litres d'eau par jour et par personne est préconisé pour répondre aux besoins fondamentaux d'hydratation et d'hygiène personnelle. L'accès est encore illégal à l'eau potable en Mbujimayi. Explication de Didier Mboudi, directeur provincial de la régie des eaux.
Je suis autour de 5000 mètres cubes par jour actuellement. C'est 2,8% des besoins. C'est vraiment catastrophique. Les besoins sont noyés.
Pour faciliter l'accès à l'eau potable à tous, quelques projets ont été entrepris en Mbujimayi par le gouvernement congolais, précise le directeur provincial de la régie des eaux. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Crime contre l'humanité, l'ex-commandant rebelle libérien Kounti Camara, condamné à Paris à 30 ans de réclusion. Il était jugé en appel pour acte de barbarie et complicité de crimes contre l'humanité lors de la première guerre civile au Libéria de 1989 à 1997. Après trois semaines de débats, l'ex-milicien de 49 ans a été reconnu coupable par la cour d'assises de Paris d'une série d'actes de torture et de barbarie inhumains contre des civils en 1993 et 1994, dont les supplices infligés à un enseignant dont il aurait mangé le cœur, la mise à mort d'une femme qualifiée de sorcière et des marches forcées imposées à la population. Fin de ce journal, coordonné par Jude Bilanda sous la supervision d'Alain Rung et mis en onde par Polydor Basunga. Merci de l'avoir suivi.